Il est midi et demi en temps universel, 14h30 ici à Paris, et c'est l'heure d'Afrique Midi sur RFI. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Des pluies diluviennes et un barrage qui cède, ce sont des inondations sans précédent qui frappent Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria. Il y a plus de 200 000 sinistrés selon l'Agence nationale de gestion des urgences. Des pluies diluviennes et un barrage qui cède. Il y a un an, en Libye cette fois, la ville de Derna avait été quasiment rasée de la carte. 14 000 morts et disparus, un traumatisme énorme. Aujourd'hui, la reconstruction est en cours, mais les controverses qui l'entourent sont nombreuses.
On verra ça avec le chercheur Wolfram Lacher, spécialiste de la Libye. Il est l'invité d'Afrique Midi.
Des passagers bloqués, des terminaux fermés, c'est le chaos depuis ce matin à l'aéroport international de Nairobi. Les personnels sont en grève, ils redoutent une vague de licenciements. Le gouvernement envisage de confier la gestion de l'aéroport à un groupe indien en échange de son agrandissement. Au Nigeria, la ville de Maïdougouri est donc sous les eaux. La capitale de l'état du Borno est inondée suite à la rupture d'un barrage provoqué par de fortes pluies ce lundi. Sidi Yansané, il y a des morts, mais on ne sait pas combien. Et un nombre important de déplacés, les autorités nigérianes estiment qu'au moins 200 000 habitants ont été affectés.
Oui, Nicolas. Et puis les images sur les réseaux sociaux montrent Maïdougouri littéralement sous les eaux. Seuls les toits des maisons apparaissent à la surface. En centre-ville, le marché, les écoles, l'administration, tout a été frappé par les flots. Le zoo également, dont 80% des animaux sont morts, d'après le journal Daily Trust. Des autruches se baladent dans la ville, pendant que ceux qui résident près du zoo ont dû évacuer à cause de crocodiles et des serpents qui se sont échappés. Tout aussi grave, un mur de la prison de Maïdougouri s'est effondré, laissant s'évader 200 détenus, dont des commandants de la secte djihadiste Boko Haram, d'après le quotidien nigérian The Guardian. Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences affirme que 70% de la ville est submergée et que plusieurs personnes sont mortes, mais sans préciser combien. L'état de Borno a rouvert des camps pour accueillir les centaines de milliers de déplacés qui pourraient s'exposer à des maladies à cause des sources d'eau contaminées par les fosses septiques et les cadavres sortis de terre suite à la catastrophe. Le HCR décrit ces inondations comme les pires que la ville ait connues depuis 30 ans, Nicolas.
Dans la population, c'est la sidération, l'angoisse et l'impuissance. L'eau est encore montée cette nuit, ainsi qu'en témoigne Maïna Bouala, un habitant de Maïdougouri.
Vers 1h du matin, nous avons reçu un appel du gouvernement. Des gens sont venus avec des haut-parleurs et ont commencé à informer les gens que les inondations s'étaient aggravées et que nous devions évacuer nos maisons. Nous sommes donc sortis. Nous avons vu l'eau approcher notre quartier. Nous avons essayé autant que possible de détourner l'eau vers les égouts, mais nous n'arrivions pas à maîtriser le flot. Nous avons donc décidé de protéger nos vêtements et nos documents en les mettant dans des étagères en hauteur. Vers 5h ou 6h du matin, l'eau était presque chez nous après avoir inondé les maisons de nos voisins. Nous avons donc été obligés de chercher un abri ailleurs. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. La même chose s'est produite en 94, il y a 30 ans. J'étais là, dans le même environnement. Les inondations étaient arrivées dans notre rue, mais à l'époque, l'eau atteignait nos pieds. La nuit dernière, l'eau est montée jusqu'à notre poitrine et maintenant nos maisons sont inondées.
Témoignage recueilli par Christina Okello, en cause notamment dans la rupture du barrage qui a inondé Maïdougouri, les pluies diluviennes qui continuent de tomber, comme sur une bonne partie du nord, du centre et de l'ouest du continent africain. Et le phénomène, Simon Rosé, ne semble pas prêt de s'arrêter.
Et oui, Nicolas, l'exemple le plus spectaculaire étant ces précipitations importantes sur le désert du Sahara, pourtant l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais c'est bien une bonne partie du continent qui est confrontée à ces conditions météo particulières. En cause, ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. C'est une bande nuageuse très humide, normalement centrée sur l'équateur. On l'appelle également la ceinture de pluie. Et elle remonte habituellement vers le nord au mois d'août. Mais cette année, en raison du changement climatique et les températures anormalement élevées de l'océan, elle a tendance à grossir et elle s'étend plus que d'habitude. On est donc sur une fin de saison des pluies plus humide que la normale et les prévisions ne sont pas très optimistes pour les jours, voire les semaines à venir. Et à moyen terme, on est sur une tendance similaire. L'Organisation météorologique mondiale anticipe d'ici la fin de l'année une probable survenue du phénomène climatique La Niña, qui a grosso modo des conséquences opposées à El Niño. Si ce dernier a un effet réchauffant et asséchant, La Niña entraîne, elle, généralement des précipitations plus intenses, notamment sur la corne de l'Afrique et sur le Sahel.
Il y a un an, c'est la ville de Derna, sur la côte de l'Est libyen, qui a été balayée par un torrent d'eau et de boue après l'effondrement de deux barrages en pleine tempête. Un an après, les controverses ne sont pas retombées. Controverses sur le bilan, les autorités de l'Est libyen parlent de moins de 5000 morts enterrés, mais n'évoquent plus le nombre de disparus, alors qu'on estime qu'il y aurait en tout entre 14 et 24 000 victimes. Controverses sur la reconstruction, controverses aussi Ouda Ibrahim sur les responsabilités.
Oui, un an après la catastrophe, l'enquête judiciaire piétine 12 fonctionnaires travaillant à la mairie de la ville, à la structure de gestion de l'eau et des barrages ou à la banque centrale ont été jugés pour détournement d'argent et écopent depuis janvier dernier de peines de prison allant de 9 à 27 ans. Le plus haut responsable jugé est le maire de Derna, mais le procureur général n'a accusé aucun responsable en charge alors de la sécurité de la ville. En mars dernier, Amnesty a dénoncé la mauvaise gestion du sinistre par les deux autorités rivales.
La reconstruction de la ville avait commencé aussitôt après le drame. Elle a été confiée à l'un des fils du maréchal Haftar.
Il s'agit de Belkacem Haftar, l'un de 6 fils du maréchal. Il est spécialisé dans l'économie. En janvier dernier, le chef du parlement libyen a annoncé la création du fonds de développement et de reconstruction de la Libye. L'équivalent en dinars de 2 milliards d'euros ont été alloués à ce fonds confié à Belkacem Haftar. C'est un chèque en blanc, protestent des experts libyens qui considèrent qu'en l'absence de contrôle, il n'y aura pas de transparence sur le coût réel de la reconstruction ni sur la qualité. Pour ces experts, le projet est opaque et pourrait dissimuler un possible abus de fonds publics. Belkacem Haftar affirme que 70% des projets en cours à Derna sont déjà achevés, avec 3500 logements de reconstruits. L'hygiène et l'eau potable manquent cependant toujours à la ville, ce qui n'encourage pas les habitants déplacés à y revenir.
On revient sur ces controverses dans la deuxième partie d'Afrique Midi avec le chercheur allemand Wolfram Lacher, qui est notre invité. Au Mali, des nouvelles du colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État, et de l'adjudant-chef Abdoulaye Balo. Ils ont été ramenés au camp 1 de la gendarmerie de Bamako dans la nuit de lundi à mardi. C'est là qu'ils étaient détenus, ils étaient accusés de complot, avant d'en disparaître en mai et en juillet dernier. Selon nos informations, les deux militaires étaient en fait depuis entre les mains de la sécurité d'État. David Bachet, après plusieurs mois au secret, ils ont donc réapparu, mais dans un état inquiétant.
Oui, leurs avocats sont plus préoccupés que soulagés. C'est l'état de santé du colonel-major Kassoum Goïta qui les inquiète le plus. Lui-même ancien directeur de la sécurité d'État, il avait été nommé à ce poste après le premier coup d'État d'août 2020, puis évincé après le second de mai 2021. À l'époque, le président de transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane avaient tenté un remaniement gouvernemental, ce qui avait suscité la colère des militaires putschistes et provoqué cette rectification de la transition. Dans les mois qui ont suivi, le colonel Kassoum Goïta, mais aussi l'ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia, étaient enlevés par la sécurité d'État. C'est le cas au total de 6 personnalités, dont un ancien commissaire de police, un opérateur économique et un marabout.
Alors finalement, leur cas avait été transmis à la justice et il avait pris une forme légale, du moins officiellement.
Oui, les 6 hommes sont poursuivis pour tentative de complot contre le gouvernement. Leur conseil dénonce un dossier vide, un procès des fidèles de l'ancien président Bandao. Lors de leur premier passage aux mains de la sécurité d'État, il y a 3 ans, les détenus avaient subi déjà d'atroces tortures, décharges électriques, simulations de noyades. Aucune précision à ce stade sur ce que le colonel Kassoum Goïta et l'adjudant-chef Abdoulaye Balo ont subi pendant ce deuxième séjour au secret.
Le Mali, où un jeune homme a été tué hier près de Gao alors qu'il se rendait à un mariage en compagnie d'un ami. Cela s'est passé pendant la nuit alors que le couvre-feu était en vigueur. Les deux hommes sont par ailleurs des combattants du MSA, un groupe armé local Touareg Daoussac, allié de l'armée. Selon des sources locales, communautaires et sécuritaires jointes par RFI, les deux hommes ont pris peur lorsqu'ils ont vu une patrouille et ont tenté de fuir. L'un y est parvenu, l'autre a donc été tué par balle. Certaines sources invoquent un accident et d'autres une bavure de l'armée. En Algérie, l'ANI, l'autorité électorale, a annoncé dimanche la réélection d'Abdelmadjid Tebboune avec près de 95% des voix. Mais les deux adversaires du président sortant contestent ces résultats. Et hier, Pierre Firsion, ils ont déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle.
Oui, après l'islamiste Abdelali Hassani, Youssef Haouchiche a lui aussi choisi hier soir de se tourner vers l'organe suprême. Le candidat socialiste a appelé à un nouveau dépouillement dans de nombreux bureaux de vote et dans de nombreuses wilayas, les préfectures, où estime-t-il le taux de participation a été gonflé. Et Youssef Haouchiche d'ajouter « En aucun cas, nous ne pouvons accepter les résultats du scrutin qui ne reflètent pas la volonté populaire. » Abdelali Hassani et lui aller encore plus loin. Ce café Lanier, a-t-il déclaré, est un crime qui a terni l'image du pays. Le candidat du MSP, le Mouvement Social pour la Paix, principal parti islamiste, a assuré qu'il disposait de preuves de ses dires. Les deux candidats avaient dès lundi dénoncé une fraude concernant à la fois le taux de participation et leurs propres résultats à ce scrutin. Dimanche, Lanier avait crédité Abdelali Hassani de 3,17% des voix et Youssef Haouchiche de 2,16% des suffrages. Abdelmadjid Tebboune avait lui été donné large vainqueur alors que le taux de participation était estimé à 48%. La Cour constitutionnelle a désormais 3 jours pour statuer sur ses recours et 10 jours pour proclamer les résultats définitifs. 10 jours à partir de la réception des procès-verbaux envoyés par Lanier. Or, lundi, la Cour avait annoncé ne pas avoir reçu les procès-verbaux de 6 des 58 préfectures du pays.
Il est 14h41 à Paris.
Afrique Midi sur RFI. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Nicolas, sur un mouvement de grève à l'aéroport international de Nairobi.
Oui, le trafic est sérieusement perturbé aujourd'hui. Nous verrons que les employés s'inquiètent pour leur avenir. L'histoire des enfants métis nés dans l'ancien Congo belge devant la justice ces 2 derniers jours à Bruxelles. De 14 à 20 000 d'entre eux, nés de relations entre des pères colons et des mères congolaises, avaient été retirés à leur famille. Et puis les sports du football ont fait le bilan de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2020. 25, 30 pays étaient sur les terrains hier. Attention, si vous voyagez en avion via le Kenya, l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi tourne au ralenti aujourd'hui. Depuis minuit, ses salariés sont en grève. Ils protestent contre un projet de concession de l'infrastructure au groupe privé indien Adani. Les salariés ont peur pour leur emploi. Les passagers sont excédés. Reportage Gaël Lalex.
Dans une longue file d'une centaine de passagers, Patrick Mulunga patiente. Son vol pour Freetown devait décoller à 7h du matin. 5h plus tard, il espère enfin rentrer dans l'aéroport.
Tout cela est ridicule. Nous, les passagers, n'avons rien à voir avec le conflit qui se joue avec les autorités. D'ordinaire, lors d'un projet de vente d'une infrastructure publique, il y a toujours une consultation populaire. Mais je ne crois pas que ça ait eu lieu pour l'aéroport. Et c'est malheureux. Le public aurait dû être impliqué avant qu'il ne vende l'aéroport, qui est un actif important.
Les travailleurs en grève demandent l'abandon du projet de concession de l'aéroport au groupe Adani. Selon eux, le consortium indien prévoit de licencier tous les salariés pour en réembaucher certains selon ses propres termes. Francis Atwoli, secrétaire général de l'Organisation centrale des syndicats kényans, demande une rencontre avec les autorités.
Nos ministres sont arrogants. Ils ne nous répondent pas. Ils répondent aux coups de fil des hommes d'affaires, mais méprisent ceux des travailleurs. C'est une attitude dangereuse. C'est ce qui nous amène à cette situation. Mais la grève continuera jusqu'à ce qu'on obtienne par écrit l'assurance que nos travailleurs ne perdront pas leurs emplois et qu'ils seront protégés par le gouvernement.
Hier, la Haute Cour du Kenya a temporairement suspendu la proposition d'Adani après le dépôt d'une plainte lundi par plusieurs organisations de la société civile. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
L'État colonial belge s'est-il rendu coupable de crimes contre l'humanité en retirant à leur mère, congolaise, burundaise ou rwandaise, les enfants métis nés de relations avec des blancs? Cette question était au cœur d'un procès en appel ces 2 derniers jours à Bruxelles. Les plaignantes sont 5 femmes, 5 petites filles des années d'avant l'indépendance. Pierre Benazé a assisté au procès.
Pour les avocats de l'État, la Belgique de l'époque coloniale finissante considérait indispensable de retirer les enfants métis à leurs mères africaines, car l'abandon par leur père européen les mettait en danger. Monique Bitou a été enlevée à sa mère à 4 ans. Selon elle, aucun métis de la colonisation ne s'est vu offrir une éducation.
Je ne sais pas ce que l'avocat appelle meilleure éducation. Parce qu'on était là dans un centre. Les grandes filles s'occupaient des petites filles. On allait dans la même classe avec tous les autres enfants du village. On ne portait pas de souliers, on marchait pieds nus. On mangeait encore plus mal que les enfants du village. Alors quelle est l'éducation qu'on nous a donnée plus que les autres?
Pour les avocats de l'État, la Belgique se comportait comme toute puissance coloniale de l'époque. Mais selon maître Michel Hirsch, les procès Roucha, après ceux de Nuremberg, avaient déjà établi les enlèvements d'enfants comme crime contre l'humanité.
Nous avons étayé une politique menée par l'État belge durant la colonisation qui était vraiment une politique d'horreur visant à éliminer les métis en s'en prenant aux enfants et en s'en prenant aux enfants dès leur plus jeune âge, d'une manière systématique, organisée, qui impliquait en réalité tous les organes de l'État.
Les juges de la Cour d'appel rendront leur arrêt d'ici début décembre. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Oui, on estime que de 14 à 20 000 enfants métis de ce qui était à l'époque le Congo belge ont été ainsi soustraits à leur famille. Les sports du football, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 s'est achevée hier soir. Eric Mamrutsch, l'occasion pour trois sélections de conforter leur première place de groupe.
Deuxième victoire en deux matchs, en effet Nicolas, pour l'Égypte qui est allé battre le Lesotho 4 à 0. Cela lui fait 6 points sur 6 au compteur. Même bilan pour l'Algérie. Facile au Libéria 3-0 pour la Côte d'Ivoire qui s'est défait du Tchad 2-0. Trois nations qui imitent ainsi la Tunisie, le Maroc, l'Angola et la République démocratique du Congo, également à 6 points et dont la route vers la phase finale au Maroc semble déjà dégagée.
D'autres ont signé leur première victoire.
À l'image du Mali, vainqueur des Swatini 1-0, du Mozambique qui a battu la Guinée-Bissau 2-1, du Burkina Faso, tombeur du Malawi 3-1, première victoire encore du Bénin 2-1 face à la Libye, de l'Afrique du Sud face au Soudan du Sud 3-2. Même score pour la Zambie contre la Sierra Leone. Précieux succès encore du Cap-Vert contre la Mauritanie 2-0 et du Gabon qui s'est bien relancé après son lourd revers au Maroc vendredi. Succès 2-0 à Franceville face à la République centrafricaine. Un succès qui permet aux Panthères de reprendre espoir à l'image de l'attaquant Denis Bouanga. Il est au micro de Fritz Koum.
On a le destin entre nos mains, à nous de faire la différence. Et comme je dis, voilà, on a une vraie équipe homogène, on a un vrai staff. Donc je pense que le Gabon est peut-être en passe de trouver de bons éléments pour aller se qualifier.
Les autres résultats d'hier, 0-0 pour le Cameroun à l'extérieur face au Zimbabwe. Même score, rien de marqué entre le Nigeria qui joue au Rwanda. Victoire du Kenya contre la Namibie 2-0. En revanche, rien ne va plus pour la Guinée. Bande dernière de son groupe après son deuxième revers consécutif. 2-1 contre la Tanzanie à Yamoussoukro. Le Sili national à qui il reste 4 matchs pour tenter de renverser la situation.
Merci Eric Mamrutsch. Il est midi 48 à Conakry. Anne Kantner, les grands titres de ce mercredi 11 septembre.
La campagne qui reprend sur les chapeaux de roue aux États-Unis au lendemain d'un débat que beaucoup ont jugé raté pour le candidat républicain. Donald Trump accuse la chaîne de télévision ABC d'avoir organisé un débat truqué. Il assure aussi que la chanteuse Taylor Swift va payer dans ses ventes le prix de son soutien aux démocrates. Elle l'a annoncé juste après la fin du débat remporté de l'aveu de la vie de tous et notamment de la presse américaine par Kamala Harris. Le secrétaire d'État américain lui est à Kiev avec son homologue britannique. Ils vont parler armement et peut-être s'interroger sur cette demande de l'Ukraine, demande répétée de pouvoir utiliser des missiles à longue portée pour frapper directement la Russie. La guerre à Gaza, l'inquiétude des pays de la région et la tentative de rassurer. Le Premier ministre irakien reçoit aujourd'hui le président de l'Iran et à ses côtés, il répète son refus de voir le conflit s'étendre. Et puis le nouveau Premier ministre français promet qu'il présentera son gouvernement la semaine prochaine. Pour l'instant, il consulte toujours. Et Michel Barnier confirme à l'instant que le parti d'Édouard Philippe fera bien partie de l'équipe. En revanche, ce sera sans la gauche. Les socialistes ne veulent même pas rencontrer Michel Barnier. Il y a un an, la ville de Derna, sur la côte est de la Libye, était ravagée par une vague meurtrière suite à l'effondrement de deux barrages. 4000 morts officiellement, mais avec les disparus, un nombre de victimes qui tourne plus probablement autour des 14 000. Aujourd'hui, la ville est en plein chantier, mais l'opacité qui entoure les circonstances de la catastrophe et les conditions même de la reconstruction demeurent. Wolfram Lacher, chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, spécialiste de la Libye, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Wolfram Lacher.
Bonjour.
Il y a un an, l'effondrement de deux barrages à l'origine de la catastrophe de Derna révélait l'état de délabrement des infrastructures, le détournement des fonds alloués pour leur entretien et l'ampleur de la corruption qui règne en Libye. Est-ce que quelque chose a changé depuis ?
En ce qui concerne ces aspects-là, le détournement des fonds, la corruption, certainement pas, ça s'est plutôt intensifié. Il n'y a pas non plus eu une enquête sérieuse, indépendante, sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Donc il n'y a pas eu justice pour les victimes. En revanche, il y a tout un processus de reconstruction qui s'est mis en marche, mais là encore, les soupçons de corruption pèsent très lourd.
Alors on va revenir sur la reconstruction en cours. Un mot tout d'abord sur l'un des points obscurs dont vous parliez, c'est celui des responsabilités. 12 fonctionnaires condamnés, dont le maire de Derna, mais personne de plus haut placé. Ça veut dire que seuls les lampistes ont trinqué dans cette affaire ?
Oui, en fait, on ne connaît même pas les noms de la plupart des 12 responsables qui ont été condamnés. Le procès s'est en huis clos. Tout a été fait pour étouffer l'espoir de vraiment faire la lumière sur les responsabilités dans la catastrophe. Et d'ailleurs, c'était le cas dès le début, quand les forces de Haftar ont fait arrêter des manifestants à Darna qui avaient demandé justice. Et c'était aussi clair dès le début dans la manière dont l'enquête avait été ciblée, à savoir uniquement sur les responsabilités dans la négligence du maintien des barrages de Darna et non pas sur les ordres contradictoires d'évacuation ou de confinement que les autorités avaient donné dans différents quartiers de Darna la veille de la catastrophe.
Alors Derna est aujourd'hui en cours de reconstruction grâce à un fonds de développement et de reconstruction créé par les autorités de l'Est et dirigé par l'un des fils du maréchal Haftar, Belkacem Haftar. Ce fonds est très critiqué pour son opacité. Est-ce qu'on sait de quelle somme d'argent il dispose et comment cet argent est effectivement utilisé ?
Non, on ne sait pas quelle somme d'argent est utilisée. On ne connaît pas les sources de l'argent et on ne sait rien sur comment il est utilisé. Ce qu'on peut dire, c'est que le clan Haftar, donc Khalifa Haftar et ses fils, saisissent la reconstruction comme opportunité pour se présenter en tant que bâtisseur, tout en se remplissant les poches, parce qu'il y a quand même beaucoup d'allégations de corruption en relation avec ce processus de reconstruction. Mais la source de financement, tout d'abord, est entourée d'une opacité totale, parce que le gouvernement de l'Est et ses fonds de reconstruction n'ont officiellement pas accès à des budgets déboursé par la Banque centrale à Tripoli. Donc une grande question est d'où vient l'argent. Puis, cette reconstruction, pas seulement à Darna, mais aussi dans d'autres villes à l'Est, se fait en dehors de toute surveillance, tout contrôle par la Cour des comptes. Il y a d'autres problèmes comme le fait que la population, même les autorités locales, ne sont pas consultées, voire souvent même pas informées de ce qui est en train de se faire.
Mais une conférence de reconstruction internationale avait été convoquée à Derna quelques semaines après la catastrophe. Est-ce que la communauté internationale a effectivement mis la main à la poche et abondé ce fonds ?
Non, mais ce n'était pas la question, parce que la Libye est riche en argent de pétrole. Donc la question, c'était plutôt, dès le début, qui allait contrôler ces budgets de la reconstruction, vu que la Libye est divisée formellement entre deux gouvernements. Un gouvernement à Tripoli qui ne contrôle donc pas la zone de la reconstruction, tandis que le gouvernement de l'Est, qui fait donc façade formelle pour le clan Haftar, n'avait pas accès au financement officiel de la Banque centrale à Tripoli. Et il y a eu donc, au fur et à mesure, à travers l'année dernière, des arrangements qui ont été conclus apparemment entre la Banque centrale à Tripoli et les autorités à l'Est qui ont donc permis cet accès au financement.
La Banque centrale qui se retrouve ces dernières semaines au cœur d'une intense polémique en Libye puisque son président a fui le pays.
Oui, on assiste à une crise depuis à peu près 3 semaines où la Banque centrale à Tripoli n'a pas de leadership clair. Ça s'explique par une lutte de pouvoir entre le Premier ministre à Tripoli, Abdelhamid Beyba, ou plutôt sa famille. Comme de l'autre côté de Haftar, on parle plutôt de plusieurs membres de la famille qui sont influents. Donc, une lutte de pouvoir entre eux et le gouverneur de la Banque centrale, Sadiq al-Kabir, qui jusque-là jouait plutôt un rôle d'arbitre dans les rivalités autour de l'accès à l'argent. Ces rivalités ont donc conduit à la tentative par Dbeiba, par le Premier ministre à Tripoli, de saisir directement le contrôle de la Banque centrale et de remplacer Kabir par un nouveau gouverneur. Mais ça a causé des grands problèmes pour l'instant et ça pourrait provoquer des conséquences économiques et socio-économiques extrêmement graves et assez bientôt.
Merci Wolfram Lacher. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des Affaires Internationales et de Sécurité de Berlin. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et on poursuit et termine aujourd'hui notre exploration de l'artisanat du pagne tissé en Afrique. Au Bénin, le canvo a été introduit par le roi Agonglo, l'un des souverains d'Abomey au XIXe siècle. Labellisé en 2020, il est aujourd'hui au cœur des créations des grands noms de la couture, Jean-Luc Aplogan.
Ce pagne tissé traditionnel est riche en couleurs et en motifs. Il vient du royaume d'Abomey. C'est un vêtement d'apparat, résume la créatrice Faridatou Modupe Yekini. Elle a fondé en 2017 la marque Modupe.
Le canvo n'est pas un pagne ordinaire. C'est d'abord un pagne de prestige, un pagne noble.
Charles Mayamoussou, un des vétérans de la mode béninoise, connu sous le nom de Lolo Andoche, sa ligne de vêtements en est très fière.
La richesse béninoise, l'identité béninoise.
Le canvo a une particularité dans sa version brute. Il est très lourd et pas toujours simple à manier sur les tables de coupe. Les couturiers ont trouvé la solution.
On a retravaillé pour avoir quand même quelque chose de très fin, qui est portable, qui est consommable. Du coup, on a le canvo assez léger.
Mais ça ne suffit pas. Il a très vite trouvé la technique.
Nous utilisons aussi le canvo mixé avec du lin, mixé avec de la soie. Quand c'est totalement canvo, parfois, certains sont un peu réticents. Mais le mettre en décoratif sur le vêtement, ça passe très bien.
Modupe réalise des robes de soirée, des chemises, des pantalons, des t-shirts et des accessoires. Sa dernière collection, baptisée Collection Ola, a eu beaucoup de succès. Dans le lot, elle avait son coup de cœur.
Une robe pour toutes les occasions. L'idée m'est venue comme ça de fusionner le Agbada classique qui était trois pièces de vêtements en une seule pièce. Il y a de la broderie. Et qu'est-ce qui nous distingue des autres? C'est notre broderie. C'est très agréable. Je me sens toujours mieux quand je porte du canvo. Et je le porte tous les jours.
Lolo Andoche, pionnier du canvo, a même ouvert un showroom à Cotonou. Particuliers et professionnels fréquentent la boutique. Et les chiffres ne sont pas mauvais.
Par an, nous sommes pour l'instant autour de 2000-3000 mètres. Mais ce qui est bien, on l'utilise beaucoup aujourd'hui pour la robe de mariage.
Il y a de l'engouement pour ce tissu emblématique auprès des Béninois. Ils apprécient.
Aujourd'hui, c'est à la mode.
Je porte la robe.
J'aime trop ça.
C'est beau.
C'est made in Bénin. J'aime bien.
Plusieurs événements nationaux célèbrent le canvo au Bénin. Il sera à l'honneur en octobre prochain avec le mois du consommant local. Les plateformes de vente en ligne et les réseaux sociaux font également sa promotion. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et c'est à Cotonou que se termine cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Corot, Rémi Vivien et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Restez sur RFI dans une minute maintenant. Le journal d'Haïti et des Amériques. On va revenir sur le débat d'hier soir entre Kamala Harris et Donald Trump. Si vous nous écoutez en Afrique de l'Ouest, vous pourrez retrouver une demi-heure d'informations en full day ou bien en portugais si vous êtes en Afrique lusophone. A tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Douleurs intestinales, des conseils pour soulager les maux de ventre.
Vendredi.
Dans notre émission Questions de femmes, être une maman solo.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Sœurs, à quoi ressemblent les fratries de filles? Solidaires ou concurrentes face à l'amour maternel, à l'adversité de la vie? Votre sœur est-elle votre meilleure amie?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.